Bonjour Basile Ader.
Bonjour.
La réforme de la justice sera présentée ce matin au Conseil des ministres, puis débattue dans les prochains jours à l'Assemblée nationale. Le texte suscite de nombreuses réactions d'hostilité des professionnels. Une grande manifestation d'avocats en particulier a eu lieu il y a à peu près une semaine, c'était le 11 avril. Est-ce que la justice ne fait pas partie de ces institutions un peu impossibles à réformer ?
Oui, sans doute. Mais parce que la justice n'est pas qu'une administration, c'est aussi une vertu. C'est surtout une mission régalienne de l'État, et on y touche trop souvent de notre point de vue. On dénombrait, il y a peu de temps, le nombre de réformes, de procédures pénales depuis 1993, qui est la grande réforme qui a un peu changé les choses. Il y en a près d'une et demie par an qui réforment notre code de procédure pénale.
Vous souffrez d'un manque de stabilité ?
Ben oui, bien sûr. On manque d'un manque de stabilité, de vision à long terme. C'est trop souvent l'instrument politique de redomontade, de prise de décision à la faveur d'un événement qui a un peu ému l'opinion publique, et on veut tout changer, tout réformer, comme s'il fallait inventer l'eau chaude tous les deux mois.
Alors, pour le Premier ministre Édouard Philippe, l'objectif de cette réforme, c'est, je le cite, « bâtir une justice efficace, rapide, accessible à tous sur l'ensemble du territoire ». On comprend bien que l'objectif, a priori, vous devez les partager.
Ils sont tout à fait louables.
Après, mais c'est la méthode. Ils ne sont pas atteints.
Pas de notre point de vue, puisque on va réformer la carte judiciaire.
Oui.
Et le résultat fondamental de cette réforme, c'est qu'on va rendre beaucoup plus difficilement accessibles les lieux de justice aux citoyens un peu partout dans le territoire. Puisqu'on va spécialiser, même si on nous dit qu'on va pas fermer les lieux de justice, on va les spécialiser de sorte que là, il fallait faire 30 km pour accéder à son juge. Et c'est important souvent d'y aller physiquement, de le rencontrer, de s'expliquer. Et c'est un leurre que de penser qu'on peut tout faire par Internet, alors surtout que tout le monde n'est pas connecté. Et là, il va falloir faire le 60 ou quelquefois 200 km pour aller devant une cour d'appel. Donc ça nous paraît être une régression sur le plan du droit d'accès au droit.
Oui. Alors, parmi les points de crispation, je pense que ce dont vous parliez à l'instant a un rapport, c'est la fusion des tribunaux de grande instance avec les tribunaux d'instance qui sont chargés de trancher les petits litiges. Quel problème cela va-t-il engendrer ?
Écoutez, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre, parce que la justice de proximité, qui est mise en place depuis une petite dizaine d'années, fonctionne bien. C'est un facteur de paix sociale. Il y a beaucoup de médiation, il y a beaucoup de juges qui sont quelquefois à la retraite, qui sont... Le TJ est déjà moins accessible.
Le tribunal de grande instance.
Tribunal de grande instance. Donc l'idée, qui à mon avis est simplement dictée pour des raisons d'économie, de mettre les tribunaux d'instance dans les TJI, va faire disparaître peu ou prou cette justice de proximité qui pourtant rend de vrais services aux citoyens.
Il y a un autre sujet de tension, c'est le tribunal criminel départemental, une nouvelle juridiction composée de magistrats professionnels et non plus de jurés, qui se substituerait, puisque c'est à titre expérimental, à la cour d'assises pour juger des crimes passibles d'une peine de 15 à 20 ans de réclusion criminelle. Qu'est-ce qui vous gêne ? Est-ce que c'est que vous tenez au système des jurés populaires, ou est-ce que c'est cette échelle de gravité des crimes qui pose un problème ?
Ben c'est les deux. C'est les deux, c'est surtout à mon avis le caractère non constitutionnel de cette expérimentation qui fera que selon que vous êtes à Arras ou à Grenoble, vous n'aurez pas les mêmes règles de droit applicables sur le plan de l'égalité des droits devant le citoyen. Je pense que ça posera des problèmes. Mais fondamentalement, c'est la remise en question de tout ce qu'apporte de fondamentalement équitable et qui a fait ses preuves depuis des décennies. Qu'est le débat devant la cour d'assises, ou l'oralité des débats, le fait que tous les témoins qui ont quelque chose à dire, tous les experts viennent déposer, est la démonstration que on ne peut pas mieux rendre la justice qu'avec ce système.
Mais l'idée d'en
priver les crimes les moins graves, parmi lesquels les viols, et il faut qu'on sache que sur le plan des victimes des viols, ça a été une grande conquête que d'arriver dans la cour d'assises. Parce que c'était le moment de faire reconnaître leur préjudice. Ce que jamais un tribunal correctionnel où on juge beaucoup plus vite n'a permis de faire. Donc en fait, on va, parce que le tribunal criminel de première instance, c'est le système du tribunal correctionnel. Donc c'est une forme de régression. Vous savez, c'est quelque chose que je tiens à dire, parce que nous, les avocats, nous sommes allés dans la rue, c'est pas pour des intérêts catégoriels. C'est vraiment parce que nous nous sentons dépositaires des droits du citoyen dont nous sommes les porte-voix dont nous sommes les représentants devant la justice, et nous avons le sentiment qu'il y a beaucoup de régressions dans la réforme qui nous est proposée.
Mais le principe d'instances différentes selon la gravité des faits commis, ça existe déjà, puisqu'il y a déjà précisément le tribunal correctionnel et le tribunal d'assises.
Donc... Oui, ce qui veut dire qu'à terme, on va supprimer la cour d'assises. La prochaine étape sera de nous dire, écoutez, ça fonctionne très bien avec un tribunal.
Donc on supprimerait les jurés populaires.
Donc c'est pour les infractions les plus graves, pour les peines les plus lourdes qui sont prononcées, que cette garantie de cette justice qui est rendue au nom du peuple français le soit en la circonstance par des représentants directs, le jury populaire.
Alors, autre point de préoccupation, et vous l'avez évoqué dès le début de notre entretien, la réforme de la procédure pénale. Quels sont, en la matière, les motifs d'inquiétude ou de mécontentement des avocats ?
Alors là, c'est que vraiment, on a fait la part belle au parquet. On a simplifié, c'était sans doute souhaitable à certains égards, le travail des policiers. Ils sont plus fondamentalement là pour faire des enquêtes que remplir de la paperasserie. Là-dessus, on ne pose pas de difficultés. Mais cette réforme, c'est un peu technique, c'est un peu compliqué à expliquer, mais a pour résultat d'assécher le juge d'instruction qui traditionnellement est le dépositaire de la phase préparatoire du procès pénal.
Et qui mène l'enquête en quelque sorte.
Qui mène l'enquête. Aujourd'hui, il n'a plus que 5% des enquêtes. Si la réforme telle qu'elle est proposée était votée, il n'aurait plus que 2%, plus que les affaires criminelles. Tout le reste, ce serait dévolu au parquet. Or, dans l'enquête que diligente le parquet, il n'y a aucun droit de la défense. Les avocats, certes, assistent, et c'est une conquête toute récente, les prévenus en garde à vue pour... mais ils n'ont pas accès au dossier, ils ne peuvent pas demander des actes, ils ne peuvent pas demander des contre-enquêtes, ils ne peuvent pas faire valoir des moyens de nullité. Donc ce grand principe du procès équitable qui est dégagé par la Cour européenne des droits de l'homme notamment, et qui est appliqué dans les pays anglo-saxons, qui est l'égalité des armes entre l'accusation et la défense, il n'existe pas dans notre droit actuellement, s'agissant de tout ce que peut faire le parquet au moment de l'enquête. Or, cette réforme, elle donne au parquet, en matière de demande de détention provisoire, en matière d'interception téléphonique, de géolocalisation, de perquisition au domicile, puisqu'on abaisse le seuil des délits de 5 à 3 ans, c'est-à-dire qu'on met quasiment toutes les infractions désormais, le parquet qui jusque-là devait passer par le juge d'instruction pourra le faire tout seul, sans le contrôle de la défense. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est une régression de ce point de vue-là, c'est qu'il n'y aura pas le contrôle des avocats, des personnes mises en cause.
La loi asile-immigration est en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Beaucoup de professionnels de la justice se sont inquiétés de ce texte, de certaines de ses dispositions. Est-ce que vous-même, ce projet vous paraît trop répressif à l'égard des migrants ou des réfugiés ?
Mais écoutez, il témoigne de la même volonté du pouvoir actuel de faire des économies. Et il ne s'embarrasse pas des garanties habituelles qui sont offertes aux justiciables. Le fait que désormais on puisse notifier par tout moyen une décision de justice, c'est-à-dire sans avoir la certitude qu'il ait effectivement été touché, qu'on ait réduit le délai de recours de 1 mois, 15 jours, est pour nous très préoccupant parce que...
Et que certains recours ne seraient plus suspensifs.
Et que sur certains recours, c'est plus suspensif. Vous sachiez que le recours, pour qu'il soit recevable dans la Cour sur les décisions de l'OPFRA, doit être rédigé, le mémoire doit être rédigé. C'est-à-dire que pour les gens, 15 jours pour se voir notifier dans des conditions incertaines une décision, saisir un avocat, que celui-ci rédige le recours et dépose, de réduire de 15 jours à 1 mois va considérablement empiéter ce droit de recours. Donc sur le plan des principes, on trouve ça inacceptable. Alors que dans le même temps, on a doublé le temps de rétention. On a porté à 24 heures la possibilité de retenir quelqu'un à l'aéroport, c'est-à-dire que c'est une garde à vue. Sans aucun motif. Donc, sur le terrain des libertés individuelles, il nous semble qu'il y a vraiment un recul assez préoccupant dans tous les textes que nous propose le pouvoir actuel.
Merci Basile Adair. Bonne journée.
Merci beaucoup.